Chapitre 12. M. Péricourt rouvrit les yeux lorsqu'il fut certain d'être seul. Toute cette agitation, tout ce monde excité du Jockey Club, comme si ça n'était pas déjà assez humiliant de s'évanouir en public. Et puis ensuite, Madeleine, le gendre, la gouvernante qui se tordait les mains au pied du lit, le téléphone dans le hall qui n'arrêtait pas de sonner, et le docteur Blanche avec ses gouttes, ses pilules, sa voix de curé, ses recommandations à n'en plus finir. D'autant qu'il ne trouvait rien. Il disait le cœur, la fatigue, les soucis, l'air de Paris, il disait n'importe quoi. Il avait bien sa place à la faculté, celui-là. La famille Péricourt possédait un vaste hôtel particulier dont les fenêtres donnaient sur le parc Monceau. M. Péricourt en avait cédé la plus grande partie à sa fille qui, après son mariage, avait redécoré à son goût le deuxième étage qu'elle habitait avec son mari. M. Péricourt, lui, vivait tout en haut, un ensemble de 6 pièces dont il n'occupait réellement que l'immense chambre qui lui servait aussi de bibliothèque et de bureau, ainsi qu'une salle de bain, petite, mais suffisante pour un homme seul. Pour lui, la maison aurait pu se résumer à cet appartement. Depuis la mort de sa femme, il ne mettait quasiment plus les pieds dans les autres pièces, hormis dans la monumentale salle à manger du rez-de-chaussée. Pour les réceptions, il n'y aurait eu que lui, tout se serait passé chez voisin, on n'en aurait plus parlé. Son lit était placé dans une alcôve, fermée par une tenture de velours d'un vert profond. Il n'y avait jamais reçu de femme, pour ça, il se rendait ailleurs. Ici, c'était son endroit à lui. Lorsqu'on l'avait ramené, Madeleine était restée un long moment assise près de lui, patiente. Quand enfin elle lui avait pris la main, il n'avait pas supporté. « Ça fait veiller mortuaire », avait-il dit. Une autre que Madeleine aurait protesté, elle sourit. Les occasions pour eux de se voir seuls aussi longtemps étaient assez rares. « Elle n'est vraiment pas jolie », se dit Péricourt. « Il est vieux », pensa sa fille. « Je te laisse », dit-elle en se levant. Elle désigna le cordon, il approuva d'un regard, « Oui, d'accord, ne t'inquiète pas ». Elle vérifia le verre, la bouteille d'eau, le mouchoir, les pilules. « Éteins, s'il te plaît », demanda-t-il. Mais il regretta vite le départ de sa fille. Alors qu'il allait beaucoup mieux, le malaise du jockey n'était déjà plus qu'un souvenir, il reconnut cette onde qui l'avait terrassée sans prévenir. Elle le prit au niveau du ventre et lui envahit la poitrine jusqu'aux épaules, jusqu'à la tête. Son cœur battait à se rompre, on aurait dit qu'il manquait de place. Péricourt chercha le cordon, mais il renonça. Quelque chose lui disait qu'il n'allait pas mourir, que son heure n'était pas venue. La pièce baignait dans la pénombre. Il regarda les rayonnages de la bibliothèque, les tableaux, les motifs du tapis, comme s'il les voyait pour la première fois. Il se sentit d'autant plus vieux que tout autour de lui, jusqu'au moindre détail, lui paraissait soudain nouveau. L'oppression était telle, l'étau qui lui nouait la gorge se serra d'un coup avec tant de violence que des larmes lui montèrent aux yeux. Il se mit à pleurer. Des larmes simples, abondantes, un chagrin comme il ne se souvenait pas d'en avoir connu, si, enfant peut-être, et qui lui procurait un étrange soulagement. Il s'abandonna, laissa les pleurs ruisseler sans honte, c'était doux comme une consolation. Il s'essuya le visage avec le coin du drap, reprit sa respiration, rien n'y fit. Les larmes continuaient à couler, la peine à l'envahir. « C'est la sénilité, » pensa-t-il sans y croire réellement. Il se redressa contre ses oreillers, prit le mouchoir sur la table de nuit et se moucha en passant la tête sous les draps. Il ne voulait pas qu'on l'entende, qu'on s'inquiète, qu'on vienne. Qu'on le voie pleurer ? Non, ça n'était pas cela. Il n'aurait pas aimé, bien sûr, c'est dégradant, un homme de son âge qui pleure comme un veau, mais surtout, il voulait être seul. L'étau se desserra légèrement. sa respiration restait contrainte. Peu à peu, les larmes se calmèrent, laissant la place à un grand vide. Il était exténué, mais le sommeil ne venait pas. Il avait toujours bien dormi, toute sa vie, y compris dans les circonstances les plus difficiles. À la mort de sa femme, par exemple, il ne mangeait plus, mais il dormait profondément. Il était ainsi. Pourtant, il l'avait aimée, son épouse, une femme admirable, toutes les qualités, et morte si jeune, quelle injustice. Non, vraiment, ne pas trouver le sommeil était inhabituel et même inquiétant pour un homme comme lui. « Ce n'est pas le cœur, » se dit M. Péricourt. « Blanche est un imbécile, c'est l'angoisse. » Quelque chose planait au-dessus de lui, de lourd, menaçant. Il repensa à son travail, au rendez-vous de l'après-midi, il chercha. Toute la journée, il avait été mal fichu, le matin déjà barbouillé. Ce n'était tout de même pas cette discussion avec l'agent de change, pas de quoi se mettre en colère. Rien d'extraordinaire, c'était le métier. Puis, des agents de change, il en avait mangé des dizaines en 30 ans d'affaires. Chaque dernier vendredi du mois se tenait la réunion de bilan, les banquiers, les intermédiaires, tout le monde au garde-à-vous devant M. Péricourt. Au garde-à-vous, cette expression l'anéantit. Ses pleurs reprirent d'un coup lorsqu'il comprit pourquoi il souffrait à ce point. Il mordit les draps à pleines dents et poussa un long beuglement étouffé, rageur, désespéré. C'était une peine effrayante qu'il vivait là, démesurée, dont il ne se savait pas capable. D'autant plus violente que... Les mots lui manquaient. Sa pensée semblait comme liquéfiée, anéantie par un malheur incommensurable. Il pleurait la mort de son fils. Édouard était mort. Édouard venait de mourir à cet instant précis. Son petit garçon, son fils, il était mort. À son anniversaire de naissance, il n'y avait pas même songé. L'image était passée comme le vent et tout s'était accumulé pour exploser ce jour-là. Sa mort remontait à un an exactement. L'immensité de sa peine était décuplée par le fait qu'au fond, c'était la première fois qu'Édouard existait pour lui. Il comprenait soudain combien obscurément, à contre-cœur, il avait aimé ce fils. Il le comprenait le jour où il prenait conscience de cette réalité intolérable qu'il ne le reverrait jamais plus. « Non, ce n'est pas encore ça, » lui disaient les larmes, et l'étau dans la poitrine et l'épée dans la gorge. Pire, il était coupable d'avoir ressenti l'annonce de sa mort comme une délivrance. Ce fut une nuit entière sans dormir, à revoir Édouard enfant, à sourire de souvenirs enfouis si profondément qu'il les découvrait comme s'ils étaient neufs. Il n'y avait aucun ordre à tout cela. Il aurait été incapable de dire si Édouard... Déguisé en angelot, il s'était ajouté des oreilles de Lucifer, il ne prenait rien au sérieux, il devait avoir 8 ans, était très antérieur à cette entrevue avec le directeur du collège à cause de ses dessins. Mon Dieu, ses dessins, quelle honte, quel talent. M. Péricourt n'avait rien gardé, pas un jouet d'enfant, pas un croquis, pas une huile, pas une aquarelle, rien. Madeleine peut-être ? Non. Jamais il n'oserait le lui demander. Et ainsi la nuit passa. Les souvenirs, les regrets, Édouard partout, petit, jeune, grand, et ce rire, quel rire, cette joie de vivre. S'il n'y avait eu cette manière de se conduire, ce goût perpétuel pour la provocation. Avec lui, M. Péricourt n'était pas à la fête. Lui qui avait toujours eu horreur des débordements, il tenait ça de sa femme. En épousant sa fortune, elle était née de Margis, les filatures. Il avait hérité de sa culture, dans laquelle certaines choses étaient considérées comme des calamités. Les artistes, par exemple. Mais, à la limite, même le côté artiste de son fils, M. Péricourt, à l'époque, s'y serait accoutumé. Somme toute, il y avait bien des gens qui arrivaient à quelque chose dans la vie en peignant des toiles pour les mairies ou pour le gouvernement. Non, Ce que M. Péricourt n'avait jamais pardonné à son fils, ce n'était pas ce qu'il faisait, mais ce qu'il était. Édouard avait une voix trop haut perchée, il était trop mince, trop soucieux de sa mise, il avait des gestes trop... Ce n'était pas difficile à voir, il était vraiment efféminé. Même en son fort intérieur, M. Péricourt n'avait jamais osé se dire ces mots. Il avait honte de son fils jusque devant ses amis parce que ces mots abjects, il les lisait sur leurs lèvres. Il n'était pas un mauvais homme, mais un homme terriblement blessé, humilié. Ce fils était un outrage vivant à des espoirs qu'il estimait légitimes. Il ne l'avait jamais confié à personne. La naissance de sa fille avait été une grande déception. Il estimait normal qu'un homme désire un fils. Entre un père et un fils, pensait-il, existe une alliance étroite et secrète, parce que le second est le continuateur du premier. Le père fonde et transmet, le fils reçoit et fait fructifier. C'est la vie, depuis la nuit des temps. Madeleine était une enfant très agréable, il l'aima vite, mais il resta impatient. Et ce fils n'arrivait pas. Il y eut des fausses couches, des incidents pénibles, le temps passait, M. Péricourt en était même devenu irritable. Puis, Édouard se présenta. Enfin ! Il regarda cette naissance comme un pur produit de sa volonté. D'ailleurs, sa femme était morte peu après, il y vit un nouveau signe. Les premières années... Comme il s'était investi dans l'éducation de ce fils, quels espoirs il avait nourri et comme cette présence l'avait porté. Puis, la déception était venue. Édouard avait déjà 8 ou 10 ans lorsqu'il fallut se rendre à l'évidence. C'était un échec. M. Péricourt n'était pas trop vieux pour refaire sa vie, mais il s'y refusa par amour-propre. Il refusait de condescendre à l'échec, il se mura dans l'amertume, dans la rancune. Alors, maintenant que ce fils était mort, d'ailleurs, il ne savait pas de quelle manière, il n'avait jamais demandé. Montaient les reproches qu'il s'adressait, tous ces mots durs, définitifs, ces portes fermées, ces visages fermés, ces mains fermées. M. Péricourt avait tout fermé devant ce fils, il ne lui avait laissé que la guerre pour mourir. Même à l'annonce de sa mort, il n'avait pas eu un mot. Il revit la scène, Madeleine effondrée, il lui tenait l'épaule, montrait l'exemple de la dignité, Madeleine, de la dignité. Il ne pouvait pas lui dire, il ne le savait pas lui-même, que cette disparition répondait à la question qu'il se posait sans cesse. Comment un homme tel que moi pourrait-il supporter un fils comme celui-là? Et maintenant, c'était fini. La parenthèse Édouard venait de se refermer. Il y avait une justice. L'équilibre du monde retrouvait son aplomb. Il avait vécu la mort de son épouse comme une injustice, elle était trop jeune pour mourir, mais cette idée ne lui était pas venue à propos de son fils, qui pourtant avait disparu plus jeune encore. Les pleurs revinrent. « Je pleure des larmes sèches, se dit-il, je suis un homme sec. » Il aurait voulu disparaître lui aussi. Pour la première fois de sa vie, il préférait quelqu'un d'autre à lui-même.